Donc, comme tu l'as dit, bah écoute, voilà, moi je m'appelle Valérian, je travaille au bureau information jeunesse qui se trouve au 57 avenue de Gramont. Alors, le bureau information jeunesse, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une structure ressource pour les jeunes. On va dire simplement, nous on a un objectif qui est de garantir l'accès à l'information jeunesse. Et alors, on va me dire, l'information jeunesse c'est quoi? C'est un label en fait. En France, donc on va retrouver des PIJ, des BIJ, des CRIJ, des CI, des J à Paris. Et en fait, ouais, c'est tout un réseau qui, allez, pour faire un petit point historique, ça vient d'après-guerre. À un moment donné, des collectifs se sont montés pour dire, eh ben, il faut que la jeunesse accède à l'information. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, donc on n'était pas dans le même contexte. Et donc il y a toute une documentation qui s'est faite et qui s'est partagée donc, sur l'emploi, l'organisation des études, la formation, les loisirs, la culture, la vie pratique, l'accès aux droits, etc., etc. C'est une information très généraliste. Donc voilà, nous on est là, on est ouvert de 13h à 18h du lundi au jeudi et de 13h à 16h le vendredi. Et en fait, n'importe quel jeune qui a à un moment donné un questionnement, une attente, une problématique, bah, il peut venir nous voir et nous on va l'accompagner pour y répondre en fait, quoi. Parce qu'on a, on a tout un réseau d'acteurs qui est là à côté de nous et beaucoup d'informations voilà, dans la structure.
Alors justement, tu l'as dit, c'est finalement accompagner l'étudiant dans ses démarches, dans toute forme de démarche. Lesquelles plus particulièrement, est-ce que vous avez des orientations pour aider les étudiants dans leur démarche? Je répète ce mot, mais qui est très important.
Démarche qui veut. Bah oui, ça veut tout dire.
Eh oui.
Alors déjà, peut-être précision, parce que j'ai Tiffany à côté de moi et elle qui travaille vraiment à l'université et qui se charge exclusivement des étudiants, si je dis pas de bêtises. Moi, je ne me charge pas exclusivement des étudiants, c'est-à-dire je me charge des jeunes en général. On a des gens qui sont, quand on parle des jeunes, généralement, allez, faire une tranche d'âge un peu grossière, allez, 13, 13, 33, pour pas avoir des chiffres ronds. Donc ça commence au collège, on travaille avec les collégiens, on travaille avec les lycéens, on travaille avec les étudiants et aussi les demandeurs d'emploi qui ont 19, 20 ans et des plus vieux, enfin voilà. On n'est pas fermé. Donc si on en revient à ta question, comment, en fait, quelle démarche ils ont quand ils viennent nous voir, leurs préoccupations principales, en fait?
Effectivement, par exemple, si j'étais encore étudiant, j'ai envie de m'informer sur du travail, par exemple, du travail pour les jeunes. Qu'est-ce que concrètement vous faites, vous, en tant que bige?
Alors, dans ma grille de lecture à moi, tu vois, s'il est étudiant, je sais que notre partenaire, l'université, et notamment la MOIP, on va essayer de les orienter vers eux. On va leur parler de R Pro, des dispositifs qui sont mis en place à l'université pour trouver un job. Après, nous, on va leur apporter une information complémentaire, du genre, regarde, on a un panneau de job. Donc, tu vois, on actualise quotidiennement. En fait, comme on organise le forum job tous les ans qui rassemble 60 à 80 employeurs, 2000 jeunes. Donc, c'est une grosse action pour nous. On a un bon réseau d'employeurs. Donc, ils nous envoient quotidiennement par mail des offres de job. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent chercher du job, donc en parallèle de leurs études ou pas, où ils cherchent un emploi. Et donc là, on va les orienter vers ça, on va leur dire les bonnes démarches à suivre, les conseils qu'on peut leur donner. Ça peut être quelque chose, quoi.
Ça peut être aussi sur des sujets complètement différents. Ça veut dire un étudiant, par exemple, qui se sent mal dans sa peau ou qui a envie d'un conseil par rapport à la sexualité ou les choses comme ça. Est-ce que sur ces sujets-là, vous accompagnez aussi les étudiants?
Alors ouais, bah par exemple moi directement je vais penser à l'espace santé jeune. Tu vois, on est vraiment en réseau avec un ensemble d'associations en fonction de la problématique. On peut orienter vers le planning familial, on peut orienter parce qu'il y a encore Tiffany encore à côté de moi, hein, comme pas. Et
C'est
donc
vrai.
ils ont. Alors c'est plus le SUM, c'est le SSU. J'ai vu ça. Donc qu'est-ce que veut dire le SSU, Tiffany?
Service de santé
Ouais,
universitaire.
ils ont simplifié. Parce qu'avant c'était le SUMS.
Oui.
Et donc il fallait un peu décrypter, quoi. Aujourd'hui, la SSU, donc voilà, si vraiment ils ont une problématique dans le milieu étudiant, il y a des accès facilités au sein de l'université.
Ok. Non, mais généralement, un jeune, est-ce qu'il y a un sujet récurrent pour lequel ils viennent vous voir ou c'est vraiment divers?
Et bah là, écoute, tu vois, je viens tout juste de sortir du travail, j'ai pris mon vélo et puis je vous ai rejoint dans le studio. Et j'étais avec trois jeunes, trois problématiques différentes. Une jeune qui sort d'une école d'infirmière et qui se dit bah, « En fait, j'ai découvert les conditions de travail en hôpital, je veux juste pas faire ça. » Donc ça, c'est sa réalité à 21 ans. Elle dit « bah en fait, j'ai envie de partir sur quoi voilà, qu'est-ce que je fais ?» Et donc là, on travaille ensemble sur ses motivations et je l'accompagne dans la recherche d'informations pour se dire bah, « Qu'est-ce qui se dessine là à l'horizon ? J'ai besoin de travail parce que j'ai besoin d'argent, parce que je dois payer mon loyer. » Et du coup, on est terre à terre et on trouve une solution ensemble et on essaye de l'aiguiller. Et puis après, j'étais avec deux autres jeunes, un qui est sorti du cursus scolaire, hein, qui n'a pas son bac. Et du coup, bah, là, il faudrait qu'ils trouvent une solution. Et donc, je l'ai orienté vers le service civique, par exemple, qui était très bien adapté au vu de sa situation. Donc tu vois, c'est les questions d'orientation, alors en complément du CIO, hein, parce que le CIO existe dans le milieu scolaire, nous on est un peu sur un autre angle d'accroche. On est vraiment sur l'orientation, organisation des études, emploi, formation, ça c'est un axe important.
Ça tombe bien que tu en parles parce qu'on va faire une seconde partie d'émission un peu dédiée à ce sujet-là de l'orientation et puis du monde étudiant ou en tout cas post-bac.
Yes.
Post-bac, voilà, tout simplement. Est-ce que combien de jeunes vous accueillez Est-ce que ça peut se chiffrer ou pas?
Ah, et bah ça, parce que ouais, ça se chiffre.
C'est vrai que ces organismes, alors évidemment, ils servent beaucoup les jeunes pour les accompagner, etc. Mais est-ce que finalement, on se tourne facilement vers ce genre de structure pour être accompagné dans ces démarches-là?
Alors, c'est une question intéressante que tu poses et en même temps, je pourrais y répondre pendant longtemps. Alors, quantitativement, puisqu'on est sur des outils quantitatifs, hein, on touche des subventions publiques. Nous, le BIJ, on a une délégation de mission de service public. Donc, on a forcément une évaluation sur notre travail et sur les jeunes, si je peux le dire un peu comme ça, qu'on brasse à l'année, qu'on rencontre à l'année. Et là, le chiffre qu'on a sur l'année dernière, c'était 16 000 jeunes à l'année. Tu vois, donc ça donne. Alors, en comptant les actions forum qu'on organise, donc tu vois, par exemple, tu prends une action, le forum job d'été à l'hôtel de ville, 2000 personnes. Par contre, quotidiennement, chaque jour, on était sur une moyenne de 35-40 jeunes sur la structure. Et là, ce qu'on constate récemment, c'est qu'il y a une baisse des fréquentations. Là, alors c'est parce que la période aussi, c'est une période un peu creuse. Et donc, on accueille des groupes, on fait des animations auprès des groupes, donc des choses qui sont planifiées, mais sur de l'accueil libre, on accueille peu de gens en ce moment, tu vois. Donc c'est un constat que je te partage.
Non mais alors du coup, c'est intéressant. Quand t'es la période de pleine, finalement, évidemment, dans l'imaginaire, on peut penser que puisque ça s'adresse aux jeunes, ça peut être la rentrée scolaire, ça peut être la fin de l'année scolaire, ces choses-là. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez une recrudescence un peu des visites?
Ouais. Ouais, bah carrément. Alors la rentrée fin août, début septembre, là généralement on a les parents préoccupés de l'orientation de leurs enfants. Et donc c'est intéressant hein, ce qui s'y passe. Et donc nous on est là et puis on accompagne au mieux. Après petite période creuse, on va dire, qui s'approche de Noël. Après ça remonte parce que aussi souvent dans le milieu étudiant, hein, on sait, je sais plus, j'avais vu un chiffre dans les premières années de licence, on compte 50 à 60% des fois de... Alors, mon chiffre, il est peut-être... attention, on peut le questionner, je sais pas, j'ai plus la source, donc c'est pas hyper fiable. Mais voilà, il y a beaucoup, au bout du premier semestre, d'arrêt à l'université. Et du coup, ces jeunes-là, ils font quoi? Et ben, ces jeunes-là, quand ils n'ont pas trouvé de solution à l'intérieur de l'université, s'ils n'en ont pas trouvé une, hop, ils vont chercher ailleurs, d'autres aides ailleurs. Et là, ils viennent nous voir. Donc nous, on a une recrudescence à ce moment-là, et souvent des jeunes hein, qui sont sortant de l'université. Et puis après ça, l'été arrive et là il y a la préoccupation, je termine mes études, comment je vais vivre mes vacances, alors comment je les organise, donc ça peut être ça, et c'est surtout qu'est-ce que je fais comme job, il n'y a plus de job, j'ai pas de plan de job, qu'est-ce qui existe, ah, des chantiers internationaux, c'est quoi des chantiers internationaux, etc., etc. Et la période de l'été c'est plutôt creux, tu vois, deux périodes pleines, deux périodes creuses, c'est un peu comme ça que je lis les choses.
Alors tu parlais de l'orientation, mais... peut-être que Tiffany Audou peut nous en parler aussi. C'est le rôle de l'université, ça, non, d'orienter et de bien orienter les élèves.
Mais une fois de plus, tu limites les jeunes aux étudiants de l'université.
Eh oui,
le BIJ ne s'adresse pas qu'aux étudiants, il s'adresse à tous les jeunes dans leur globalité et des jeunes dans les lycées, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas que les étudiants de l'université de Tours, il y a aussi plein d'autres structures d'enseignement sup. On va citer l'ITS, etc. Donc, je crois qu'en fait, c'est le terme que tu utilises, ce qui n'est pas bon.
Non, mais c'est vrai, tu fais bien de préciser parce que moi, évidemment, je me réfère plutôt à ce monde-là puisque je viens d'en sortir.
Bien sûr.
Du coup, c'est vrai, c'est plus facile pour moi de visualiser ce contexte-là en tant qu'étudiant. Donc, la tranche d'âge 13-33. C'est ça.
Allez, qu'est-ce qu'un jeune?
Du coup, alors voilà, qu'est-ce qu'un jeune? C'est ça la vraie question.
Alors là, du coup, je sais plus quoi dire. qu'est-ce qu'un jeune? Qu'est-ce qu'un jeune?
Non, mais évidemment, c'est. Qu'est-ce qu'un jeune? Non, mais c'est vrai que la question, à la limite, elle peut se poser. Qu'est-ce qu'un jeune qui peut prétendre à venir et à toquer à la porte du BIJ?
Généralement, c'est un jeune qui a pas réussi à trouver l'information par lui-même, si j'ai envie de dire. Ou alors qui a pas trouvé l'information auprès d'un partenaire quelconque qui se trouve sur le territoire. C'est vrai que c'est intéressant ce que disait Tiffany sur les étudiants, l'université, 25 000 à peu près étudiants.
28,
excuse-moi. Ouais, tu vois. 28 000, mais à côté de ça, les préoccupations des lycéens ne sont pas du tout les mêmes, des collégiens ne sont pas du tout les mêmes. Ceux qui sont en école supérieure, des grandes écoles privées ou des écoles... Il y a quand même pas mal de choses. Et donc, nous, on s'adresse à peu près à un échantillon très large sans avoir une spécialité, contrairement à l'université qui, elle, du coup, c'est une micro-ville, quoi. C'est quand même 28 000 étudiants, combien 1800 salariés ?
2500
salariés, allez.
Oh, t'es pas loin à chaque fois.
Tu vois, c'est pas beaucoup. 1800 profs sur 2500.
Alors là.
Je te pose une colle.
J'avoue.
Non, mais en tout cas, c'est un des principaux employeurs. Enfin, en tout cas, c'est un énorme établissement, l'université. Il y a même pas de comparaison à avoir entre une association qui est le BIJ, parce qu'on est une association, on est 6 salariés, et là, on prend un établissement public avec une mission. Hyper importante sur le territoire et qui rassemble 2500 salariés. Donc on n'a pas les mêmes missions, mais on est complémentaires. Donc on est amené à travailler ensemble sur différentes actions.
Je vous ai préparé un quiz qui, lui, portera sur le monde étudiant. Pardon encore une fois de ce côté borné que j'ai.
Non, y a pas de souci, hein.
Je mets le petit jingle et je vous pose quand même ces petites questions. C'est parti. Alors, première question. À quand datent les premières universités de France ?
Pouf.
Université, alors évidemment, le mot a évolué avant, puisque avant l'école n'était pas sous cette forme actuelle, évidemment. Ouais. Mais les premières.
Éducation.
Voilà, les premiers établissements qu'on a appelés vraiment universités.
Je dirais les années 70, mais.
En 1970 ? Ah, plutôt que ça.
Ah, c'est bien avant. Les premières, toutes premières, je parle vraiment...
Il y avait des universités religieuses, non ? L'université est laïque par définition.
Alors justement, évidemment, à l'époque, l'université était gérée par des hommes d'église. Donc, ça remonte à un peu plus...
pour la séparation de l'église et de l'État, on était avant 1900.
C'était
un petit 1820, sachant que... je crois que la première femme médecin, tu vois, une université de médecine, ça doit être un truc comme ça, 1825, je dirais début des années 1800 ou 1790, un truc comme ça.
Alors, les nouvelles structures d'université, c'est-à-dire les universités modernes, c'était après la Révolution française. Mais les premières universités à porter ce nom en tant que tel, c'est en 1229, avec l'université de Toulouse et l'université de Montpellier, attendez, je reprends mes chiffres, qui date de 1289.
Ah ouais.
Donc ça remonte
au Moyen Âge.
Voilà, exactement. Alors évidemment, c'était un autre enseignement.
T'apprenais la chevalerie et tout, quoi.
Voilà,
ça
donc
bien, ça.
c'était un autre temps. Deuxième question. En mai 68, il y a eu évidemment révolte ouvrière et étudiante. De quelle université est parti ce mouvement ?
Oh, la Sorbonne, non ?
Ah.
Pareil.
Alors,
non?
C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ouais, la Sorbonne est ancrée. Eh bien, ça vient de Nanterre, l'université de Nanterre.
Nanterre.
Avec un soulèvement, entre guillemets, le 22 mars 1968.
On est un peu nuls. Hein.
Ah ouais, non, mais attends, t'as vu les questions techniques, là? Moi, je t'ai pas né en 68, on m'a raconté des trucs, mais...
Moi non plus, je te rassure.
Troisième question. En 68, du coup, on avait un certain Charles de Gaulle, président. Dans quelle université a-t-il étudié? Attention, c'est une question piège.
Nanterre.
Non, il était pas dans le sud, lui?
À l'université de Tours, François Rabelais.
Ah non. En fait, c'était une question piège puisqu'il n'a pas fait d'université ni faculté. Il a fait l'école militaire de Saint-Cyr. Et il est sorti diplômé de cette école en 1912. Voilà, pour la petite anecdote concernant Charles de Gaulle.
Il a fait Saint-Cyr, quoi de qui dans
Il a fait l'école militaire de Saint-Cyr.
Ouais.
Quatrième question. Combien y a-t-il eu d'étudiants étrangers en 2014-2015 en France, dans les universités françaises? En chiffres.
Alors, Tiffany Oudou. Il me semble que tu as posé cette question à nos volontaires en service civique.
C'était pas tout à fait la même question.
Non,
c'était pas tout à fait la même.
Te plante pas.
J'essaye de varier les questions, même si.
Alors, je dirais. Alors, clairement, à Tours, on en a à peu près 3005.
Donc, là, je parle sur l'ensemble.
Effectivement. On a à peu près 3005 d'étudiants internationaux. Et après, tu parles des étudiants internationaux, des étudiants d'échange.
Des étudiants étrangers qui ont étudié sur le
français.
Ça comprend tous les étudiants.
Donc ça veut dire
échange,
des étudiants d'échange aussi qui sont partis dans leur pays.
Exactement.
Ah oui, non, mais alors là, ça commence à chiffrer, quoi. Parce que les étudiants d'échange, il y en a aussi un certain nombre.
Mais sur une année, tu parles sur une année,
2014-2015, parce que les derniers chiffres, en tout cas, ce que j'ai trouvé, datent de cette année-là.
Alors là, aucune idée. Moi, je dirais 250 000 à la louche.
Ah
comme
non,
ça.
Non, tu t'augmentes. Hein.
Ah ouais.
Bah, quand tu regardes la tour, on est déjà à 3500 individuels.
Ah ouais, mais Tours,
c'est pas non plus très loin de 250 000. Hein.
Ah, je t'ai dit,
on est au-dessus, on est au-dessus, mais pas de beaucoup, beaucoup non plus.
Bah, voilà.
C'est 298 902.
Ouais, non, il n'y a pas tous les étudiants étrangers dedans. C'est pas possible.
Et bah alors, ils sont où les autres étudiants étrangers?
Ils sont pas grands.
Non, mais
ils
parce que quand tu regardes que sur Tours, on est à 3500 d'étudiants individuels, sans parler des échanges, des étudiants d'échange.
Avec les
étudiants d'échange, ça fait quand même beaucoup plus.
Bah, combien du coup à
on en est à. Bah, tu multiplies par deux, je crois. Donc.
Oui, après, attention, les universités, il y a peut-être d'autres universités qui accueillent beaucoup moins d'étrangers. Tours, c'est peut-être aussi une ville attractive pour les étudiants étrangers.
Ouais,
c'est le cas de Tours, Paris, Lyon, Marseille,
Vendons Tours.
Non, mais c'est vrai que la question se pose. Alors, toujours dans les chiffres. combien y avait-il d'étudiants dans les universités en 1900?
Ah, mais c'est quoi tes questions?
Ah, ben j'ai pas dit que c'était facile. Hein.
Ah, ouais, non, c'est ardos là, ce que tu nous poses comme question. Là.
C'est pour voir si vous avez un peu l'ordre d'idée. En 1900.
En 1900, combien il y avait d'étudiants?
Dans les universités en 1900. En sachant évidemment que les universités, alors là j'ai pas le chiffre, mais il y en avait beaucoup moins. Et encore une fois.
C'était religieux encore à
beaucoup.
1905, c'est pas la séparation de l'État et de l'Église?
Exactement, ouais.
C'est ça.
Loi de 1905. Donc
avant, a priori, le mouvement était en marche. Ce que j'ai dit. Blague à part. Moi j'aurais dit pas beaucoup. Hein. Moins de 50 000.
Ah, pas mal! Vous voyez que vous n'êtes pas si nul que ça malgré les
questions.
Ah non,
mais
questions.
Je laisse réfléchir en fait.
C'est
hein.
29 000, enfin ils estimaient à environ 29 000 étudiants en 1900 dans les
T'imagines, universités. T'imagines, c'est ce que représente Tours en fait.
Ouais, mais là c'était...
Ouais, c'est ça.
C'est qu'en fait, ça représente tous les apprenants, pour reprendre le terme de tout à l'heure.
C'est dingue comme quoi...
Tous les apprenants de l'enseignement sup sur Tours à peu près en fait.
En plus d'un siècle, la situation a évidemment complètement évolué. Et aujourd'hui, c'est à peu près à 2,5 millions d'étudiants. Est-ce que je me trompe sur ce chiffre-là ou c'est à peu près correct?
Mais 6
étudiants sur 10 sont à l'université, ce qui correspond à peu près 1,5 million d'étudiants à l'université cette fois-ci. Voilà, pour être précis.
Oui, c'est ça.
Donc 2,5 millions d'étudiants en tout dans le supérieur.
D'apprenants de l'enseignement sup. Voilà.
Exactement, et 6 sur 10 à peu près la proportion d'étudiants à l'université.
Ouais, bah c'est peut-être ça. Ouais.
Bon, on est d'accord là-dessus. Et ça tombe bien parce que le quiz est fini. Je suis désolé de vous avoir torturé avec ces questions.
Ouais, je me sens mal. Juste avant, en plus, est-ce que tu poses des questions historiques ou est-ce que moi, les dates, clairement.
Ah, bah ça. Et je préfère réserver la surprise, comme ça, les gens, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir. On va continuer sur le BIJ et sur les actions que vous faites, notamment dans le cadre du service civique. Alors, on a reçu hier les étudiants au service civique du CROUS et ça fait finalement une bonne transition sur le service civique. Alors, je reprends l'agenda du BIJ. Il y aura notamment le mardi 28 novembre des informations sur le service civique. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Est-ce que tu orientes, toi, en tant que membre du BIJ, les étudiants vers les services civiques?
Alors,
les étudiants, attention. Les jeunes sur le service civique, parce que je vais me faire taper sur les doigts.
Ouais. C'est vrai que Radio Campus, ouais, Radio Étudiante, mais ça, c'est... voilà, il y a une préoccupation.
Mais 68, ça m'est resté dans la tête. Hein.
L'esprit révolutionnaire, voilà. Tout ça. Alors, en fait, les services civiques, ouais, ça peut être une solution pour un étudiant qui cherche une activité à côté. Après, ça fait un emploi du temps bien rempli, hein, quand même. Donc à voir. Après, c'est comment dire, on peut être le service civique, c'est assez complexe comme dispositif. Donc nous, en fait, comme c'est pas très comment dire, c'est pas très lisible, ou c'est un dispositif qui est un peu méconnu dans son ensemble, en tout cas si je peux dire ça comme ça, nous on va faire de l'information un peu plus précise dessus, et on va inviter les jeunes qu'on a déjà rencontrés ou qu'on n'a pas rencontrés à venir sur une heure de temps pour découvrir tous les aspects, tous les contours de qu'est-ce que c'est que ce dispositif qui s'adresse aux 16-25 ans et qui offre une indemnisation de 580 € pendant une période qui va de 6 mois à 12 mois. Et en fait, il y a plein de choses derrière ça.
Et dans un temps de mission qui est compris grosso modo entre 24 heures par semaine jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à 48 heures, c'est assez rare, mais c'est le temps effectif de travail.
Normalement, c'est 35 heures. On peut aller jusqu'à 48 heures, mais sur un contrat de service civil, c'est 35 heures. Après, dans les faits, ça peut aller jusqu'à 48 heures, mais c'est récupérable, en fait.
Après, il y a certains contrats qui sont moins de
35 heures. Après, c'est 24 à 35 heures, généralement.
Voilà. Oui, voilà.
Ouais, généralement. Et on encourage 24 à 28 heures. Parce que c'est vrai qu'au démarrage du service civique, on avait beaucoup de services civiques qui étaient à 40 heures semaine. Et là, déjà, ça nous pose question.
Ouais. Oui, parce que c'est aussi... il faut aussi se poser la question de savoir ce qui est le mieux, finalement, entre un stage et un service civique, parce que le service civique, c'est aussi peut-être un moyen de paupériser, finalement, les jeunes, parce que c'est aussi un... Enfin, c'est en termes d'horaire, c'est assez conséquent pour un salaire qui est moindre, il faut aussi le dire.
Bah pour être vraiment exact sur ce que tu dis, un service civique coûte 5 fois moins cher qu'un stage. Un stage de plus de 2 mois, je parle, un stage rémunéré.
Un stage rémunéré. Après, il faut aussi le préciser, les stages rémunérés, le montant légal, c'est autour de 550 € par mois.
Donc, ah oui, mais l'aide de l'État n'est pas la même, hein.
Oui, après c'est sûr, mais dans la poche de la personne qui fait le stage, c'est autant, voire moins qu'un service civique. Ouais. Et je dirais même rapporté à l'heure... au taux horaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait 24 heures de service civique par semaine et qui gagne 580 € en indemnité au mois, il touchera plus à l'horaire, à l'heure, que quelqu'un qui fera 35 heures en stage pour 550 €.
Mais là, tu te mets au niveau du jeune, mais au niveau de l'entreprise, entreprise, ouais, de structure, etc. Forcément, le service civique, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça coûte moins cher.
En fait, ce qu'il faut voir dans le montage financier, et ce que dit là Tiffany, c'est intéressant, c'est que la structure d'accueil va débourser 107 € à peu près. D'accord. Mmh. Et l'État va apporter une aide de 471, exactement. Et que du coup, le stage, si je dis pas trop de bêtises, c'est l'employeur qui va verser l'ensemble de la somme. Il n'y a pas d'aide. Et en fait, le stage aussi, il y a différents types de stages. Et l'employeur, il n'est pas obligé de payer au tarif minima, hein, la personne qui recrute en fonction de ses compétences, en fonction de son CV. Des fois, les stages, c'est payé plus cher. Hein. Donc vraiment, moi je te dis ça aussi après avoir lu un article de Libé cet après-midi où ça m'a, ce truc-là, 5 fois plus cher, ça m'a étonné. Je me suis dit, parce qu'en effet il y a une grosse discussion sur le développement du service civique, et si je peux me permettre, juste pour revenir à l'essence du service civique au démarrage, en fait on avait en juillet 2006, on a le service civil volontaire qui a démarré, et donc ça a pris petit à petit. Au départ, il y avait quoi ? Il y avait 3000 jeunes concernés. Et après, en fait, en 2010, il y a eu Martin Hirsch qui a créé le service civique. Et là, on est passé, que je dise les chiffres, de en 2010, il y avait 6000 volontaires en service civique. En 2016, il y en a 130 000. Et là, objectif 2018, 350 000. Tu vois l'évolution?
Ah oui, inflation totale.
Et inflation c'est... totale et monsieur Hollande, notre président, ancien président François Hollande a dit le service civique universel pour les jeunes. C'est-à-dire tout jeune qui veut accéder au service civique doit accéder au service civique. Et donc il a ouvert encore plus les portes. Et là, du coup, on est quand même sur des bases 350 000 services civiques. On regarde à côté, tout à l'heure, on a dit un chiffre, 1,5 million d'étudiants à l'université, 2,5 millions d'apprenants, si on peut utiliser déjà ce terme. Tu vois, ça fait quand même, là, ça te fait un dispositif assez lourd, hein, qui occupe de la place. Et quelle est la direction de ce dispositif? Eh ben, c'est une vraie question.
Effectivement. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais qu'on aborde le thème dont on a parlé tout à l'heure, notamment les admissions post-bac. On a parlé brièvement tout à l'heure sur le sujet. Alors en France, il y a eu énormément de débats autour de ça parce que les facultés, notamment Tiffany, Oudou, peut-être que vous pouvez confirmer, elles sont overbookées.
Oui.
Overbooké clairement, et ça engendre du coup le fait de tirer au sort les élèves pour certaines filières qui sont trop bouchées. Alors évidemment, ça a fait scandale, et le gouvernement est revenu récemment sur ce dispositif qui avait été voté en mars ou avril dernier, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, alors je voulais savoir dans quelle mesure, par exemple, le BIGE aide dans l'orientation des élèves qui auraient été refusés dans leur choix post-bac.
Alors là, c'est une question peut-être que nous n'avons pas les compétences justement pour... en fait, on va donner de l'information. Donc là, on va réorienter vers la dimension scolaire, vers l'inspection académique, enfin l'éducation nationale. Puisqu'en fait, nous, on accueille des parents qui sont préoccupés dans oh, c'est quoi le calendrier post-bac, moi, ma fille ou mon fils veut faire tel vœu, là, ça a encore changé, on n'y comprend rien. Nous, on leur explique comment ça se passe. On leur présente le calendrier, on les rassure, on leur donne des guides, on leur donne des choses pour qu'ils aient toute l'information nécessaire. Après, s'il y a souci, et là il y a eu beaucoup de frustration après ce dispositif de tirage au sort et plein de jeunes qui ont été mis de côté, donc bon, voilà, ça n'existe plus, pourquoi le tirage au sort a été abandonné, c'est que ça n'a pas été le système le plus fiable. Enfin bon, c'est à discuter, c'est un sujet à débat. Et donc nous, on accueillait les frustrations et puis après on réorientait, quoi, tu vois, on donnait l'information, on était un peu un intermédiaire. Mais peut-être que Tiffany, à l'arrivée à la fac ou tout ça, peut-être il y a des éléments qui peuvent être intéressants, je sais pas.
Est-ce que la fac de Tours, elle est overbookée aussi dans certaines filières?
Certaines filières sont pleines, hein, forcément. Je veux dire, on accroît le nombre d'étudiants tous les ans. Cette année, on a à peu près 1000 étudiants en plus. Et là, on arrive sur les années baby-boom, hein, les années 2000. Donc là, cette rentrée, ça a commencé. Ça va être encore pire la rentrée prochaine en 2018, où là, vraiment, les enfants baby-boom, ils arrivent à la fac. Donc voilà, après, notre ministre dans l'enseignement sup lance là un plan étudiant où justement se pose la question de comment est-ce qu'on oriente au mieux les lycéens, parce que la fac, c'est peut-être pas donné à tous, mais c'est peut-être qu'il y a des jeunes qui finalement peuvent se réorienter vers d'autres institutions plutôt que l'université. Ça peut être sur des trucs pro, un peu plus professionnalisants, et donc à ce moment-là, voilà, l'université, c'est peut-être pas forcément la solution. Et donc d'où le plan étudiant là qui est en train d'être en discussion entre le ministère de l'enseignement sup, le ministère de l'éducation nationale, et j'en passe d'autres.
D'ailleurs, pour compléter, il y avait même un mouvement un peu étudiant qui s'appelait « Ma salle de cours va craquer ». C'était un blog et puis le but, c'était de poster des images des amphithéâtres de France qui étaient pleins à ras-bord.
Ouais,
ça a fait le buzz, effectivement, l'année scolaire passée.
Il y en a, oui. Ils étaient en cours par terre, quoi. Enfin, qu'ils s'assoient dans les marches, etc. pour pouvoir suivre leurs cours. Donc, ouais.
C'est un réel problème, là, pour le coup.
Bah ouais, parce qu'en fait, c'est par rapport à la démographie du pays, hein, c'est ce qu'on a, baby-boom, il y a 40 000...
Et peut-être...
Enfin, il y a un écart de chiffres entre les entrées de l'année dernière et les entrées de cette année.
Nous, l'université, on a gagné, entre guillemets, 1000 étudiants.
1000 étudiants sur Tours, donc on s'imagine à l'échelle nationale
à
ce que c'est, quoi.
Pas à Tours, à l'université.
Ah ouais, à l'université. Donc c'est quand même beaucoup.
Sans extension des locaux.
Sans extension
des locaux. Voilà. Faut aussi le préciser, parce que 1000 de plus avec un local de plus, ça pourrait le faire. Mais
après, ça dépend du local. Hein, parce que quand on voit médecine, par exemple, où c'est deux amphis qui sont pleins pour un même cours, donc C'est, voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un mode de fonctionnement à repenser? Des cours à distance, des MOOC, enfin bon, il y a quand même aussi peut-être des choses à re-questionner.
Bah là, les dispositifs qui ont été mis en place, ça a été le tirage au sort, on a vu que ça n'a pas marché. On a parlé de la sélection, ça fait polémique, et il y a de quoi, hein?
Mais parce que l'enseignement sup doit être ouvert à tous.
Exactement.
Tous les jeunes doivent pouvoir accéder.
Il y a déjà une sélection à l'entrée à l'IUT dans certaines filières. Et moi, j'en sors, donc je vois de quoi je parle. n'est-ce pas aussi? et là, après, ce qu'ils disent, là, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils veulent avancer. Donc, ils gardent le calendrier admission post-bac. Mais dans la liste de vœux, au lieu d'être, 3-4 mois en liste d'attente, en fait, il y a un gros problème entre les gens qui sont pris et qui ne se positionnent pas directement. Donc là, ils veulent accélérer le calendrier pour libérer les places d'attente et donc faciliter le processus, quoi, pour limiter un peu la casse. Moi, mais je pense que le 6 novembre, ils ont dit qu'ils établiraient un rapport et donc ça a dû sortir. Là, on va avoir l'info, je pense, dans les médias d'ici peu. Hein.
Mais après, il y a cette question aussi d'orientation des lycées qui se pose avec le fait d'avoir deux profs responsables. On dit deux profs principaux, voilà.
Tuteurs,
il y a aussi cette orientation des lycées qui peut aussi qui est amenée à
évoluer.
C'est vraiment des questions qui sont au plein cœur de nos ministres.